quand j'étais plus jeune, à 8 heures, il y avait la sirène. Les tours, les machines se mettaient en route. Hein, on voyait ça on enregistrait beaucoup, nous, à la centrale, pour savoir comment se prévaloir aussi. Quand vous êtes fournisseur d'énergie, vous êtes obligé de prévoir. Hein, parce que, bah, bon. Et donc, à 8 heures, ça démarrait. À midi, ça s'arrêtait. Les gens allaient manger. Ça reprenait un petit peu moins fort, forcément, l'après-midi. Et c'était encore horizontal jusqu'à la sortie, à 18 heures. Il n'y avait pas d'horaire variable à l'époque. Hein, l'horaire variable, déjà, tout ça, l'horaire variable et le casse-croûte de 10 heures aussi, qu'il n'y avait pas. C'est moderne. Et donc, quand on compare des courbes à 30 ans, 40 ans d'écart, c'est fou, quoi. L'électricien voit l'activité d'une usine en regardant une courbe d'énergie. Ça, c'est pas compliqué, c'est facile.
La grande maison. Histoire d'Arsouille. À retrouver chaque semaine sur Radio U.
On les retrouve en raccourci.
Alors, famille ouvrière de Brest, une des plus, la plus, c'est pas possible à dire, mais une des plus anciennes de Brest, par justement l'appartenance de quatre générations de personnes autour de l'arsenal de Brest, donc dans cette sphère là, de l'arsenal de Brest, et qui nous a valu de passer dans un reportage de l'Express il y a quelques années, où on était pas sélectionné, mais enfin c'est pas une sélection bien sûr, mais on était retenu comme étant une des familles, des images marquantes pour ce qui concerne l'appartenance à l'institution de l'arsenal de Brest. Voilà. Ça remonte à mon grand-père. Hein, mon grand-père. Donc ça remonte à, 1880. Mon père, c'est derrière 1915, à peu près, hein, derrière. Moi, c'est 1938, vous voyez, donc au début de la Deuxième Guerre mondiale, voilà. Et mon fils est né, qui est en retraite aussi, c'est 1961, enfin, à partir de... Voilà. Pour ce qui me concerne, je suis rentré à l'arsenal en 1953 et j'ai parti en retraite en 1998.
Je l'ai là l'article. On pourrait même, je peux même le photocopier là. Ah oui. Ah oui, oui, je l'ai bien sûr.
Alors, moi je garde pas mal de choses. Non, ça c'est... On est un peu originaire de Lambézelec aussi. Donc. Ah tiens, il est là. Je vois le... voilà. Voilà. Voilà l'article...
Ah oui.
Qui vous dit, qui dit ce que je vous ai dit brièvement là concernant la famille, je sais pas si Mathilde n'est pas dessus d'ailleurs. Enfin, non. Ça a été pris à la Maison Blanche à côté de la base sous-marine. Là il y a mon grand-père, mon père. Une partie de la... Ils étaient originaires de Dirineron. Hein. C'était donc des agriculteurs au départ. Après, donc, du côté de la génération d'après, de mon père, il y avait en plus la possibilité de promotion sociale donc, dans cet établissement-là. Et c'est ce que fait mon père, d'ailleurs. Mon père était chaudronnier et il a passé des concours. Il a passé des concours de préparatoire, etc., pour aller aux écoles techniques de la marine. Et puis, il a eu une assez grave maladie qui fait qu'il a été reclassé. Enfin, pas reclassé, mais il était après responsable du service hygiène-sécurité de l'arsenal. Moi, comme mes autres frères, quand on a eu l'âge de passer le concours d'entrée à l'Arsenal, on a passé le concours d'entrée à l'Arsenal. Entre 14 et 15 ans, c'était les âges qui allaient bien. Et donc, mes deux frères, comme moi, on est rentrés apprentis. On a fait nos 3 ans d'apprentissage avec une spécialité différente de chacun. Moi, j'étais électricien. Mon frère aîné était mécanicien. Et mon jeune frère, charpentier tôlé. Vous voyez, c'était divers, varié. Bon. Voilà. Donc, la rentrée, pour moi, c'était 1953. Donc, 3 ans d'apprenti, 56. Après 2 ans d'école préparatoire, enfin cours du soir, etc., école préparatoire, et 1959, entrée aux écoles techniques. Oui, j'ai pas redoublé, j'ai fait mon cursus, et sorti en 61, vous voyez, sorti en 1961.
En tant que
chef de travaux, enfin ça s'appelait chef de travaux. Moi, j'étais électricien, voilà. Puisque moi, avant d'être cadre, j'étais dans ce qu'on appelle la conduite de tir, donc à l'artillerie navale. Je m'occupais des postes à calcul pour les canons, si vous voulez, des bateaux, quoi. Hein, vous voyez, ceux qui reçoivent de l'information par un radar, qui transforment cette information pour les télépointeurs et qui envoient, si possible, le tir vers l'ennemi, quoi. Hein, ouais. Donc c'était l'artillerie, voilà. Et également un travail auxiliaire sur les dragueurs. Il y avait beaucoup de mines dans la rade de Brest laissées par la guerre. Et donc il fallait toutes ces mines, il fallait les enlever. Et donc les dragueurs de mines, ils étaient utilisés pour ça, hein. Forcément, c'est leur but. Bon, hélas pour eux, si ça se passait, il ne fallait pas qu'eux sautent sur les mines parce qu'ils allaient les chercher. Et donc, il y avait un système anglais, d'ailleurs, qui s'appelait le degaussing, enfin, c'est un nom en anglais, bien sûr, qui correspondait à régler des circuits électriques autour de la coque du bateau, hein, dans les 3 directions. Hauteur, profondeur et largeur, enfin donc le trièdre tri-rectangle, pour mettre du courant pour annuler le champ magnétique extérieur de façon à rendre neutre le dragueur, sinon. Bon, c'était une année 61, vous savez, c'était encore la guerre d'Algérie, il y avait des problèmes de. Pas simples, hein, au niveau. Et donc, des affectations de services militaires étaient compliquées. Entre temps, moi, je m'étais marié, hein, et j'avais un garçon déjà, un petit garçon, bon, hein, j'avais 23 ans à cette époque-là. Hein, bon. Et puis voilà, donc moi j'ai fait un bon moment à la base sous-marine de Quéroman, à Lorient, m'occuper de sous-marins océaniques, hein, dont un qui s'appelait le Roland Morio, qui était une prise de guerre allemande, vous voyez, donc, qui avait été étudié et repris par la France, quoi, pour des sous-marins de 1500 tonnes. Donc j'ai commencé, vous voyez, sur des faits de sous-marins. Et quand je suis revenu à Brest après ce temps de service militaire, en 63, il manquait du monde dans le service énergie, parce que les cadres qui étaient anciens. Il y a un qui s'était malheureusement qui était décédé avec son épouse par de l'oxyde de carbone. Enfin bon, un accident familial. Et puis donc, on m'a mis là, tu es électricien, allez, tu vas aller au service énergie. Et j'ai passé tout mon temps après au service énergie. Vous voyez, j'ai changé complètement d'activité. Et donc, j'ai été au service énergie, d'abord le quart de l'Arsenal, vous voyez, le quart de toute la partie rive gauche de l'Arsenal. Hein, depuis l'arrière-garde, depuis le fond de l'arsenal jusqu'au château, vous voyez, avec des ateliers. J'avais même le pont de recouvrance en charge, vous voyez, l'équipement, le fonctionnement du levage, enfin, de, bon, ouais. Et puis tous les branchements de bateaux, enfin tout ce qui est énergie, quoi, vous voyez. Donc j'ai fait quand même quelques années là-dedans. Et puis ça évolue évidemment, toujours pareil, hein, et ça évolue. Et puis il y a eu le mai 68 qui est venu derrière, vous voyez, c'est 4-5 ans après. Mai 68, c'est le bazar, hein, c'est ce que c'était. Et donc c'était une période difficile, et notamment parce qu'il y avait aussi l'île Long qui commençait à pointer le bout de son nez au niveau de l'infrastructure. Et il cherchait quelqu'un de jeune, je plaisante, de jeune et dynamique, enfin, qui avait une expérience, mais pas trop ancien, enfin bon, bref. Donc, paf, on m'a dit, ben, c'est toi qui vas là-bas. Et donc, sur fin de mai 68, là, je me suis retrouvé sur le chantier de construction de l'île Longue, et dans la boue l'hiver et dans la poussière l'été, oui, construction des bassins, de la pyrotechnie, enfin, toute la sortie, avec toutes les canalisations, avec tous les différents courants et toutes les énergies, quoi. Je m'occupais de tout ça, donc j'avais une expérience quand même, quoi, de quelques années, bon, voilà. Et donc après, ce chantier, on a reçu le redoutable en 71, sauf erreur de ma part. Donc le premier sous-marin nucléaire est venu, donc il a fallu le recevoir. C'est sur moi la responsabilité de le raccorder, de le brancher, de m'occuper un peu de son nucléaire, mais vu de l'extérieur, hein, moi je n'ai pas passé le bateau, mais bon. Et puis des grosses batteries, des gros, enfin, tout ce qui est l'énergie, et puis les infrastructures qui vont avec aussi, par rapport à la coque, aux batteries, enfin, c'est toute une technologie, plus la partie pyrotechnique, avec les vecteurs, les missiles, la bombe nucléaire, enfin, bon, bref, avec des magasins, des conditions très particulières au niveau de sécurité, l'énergie, etc. Vous voyez, donc, ça m'a bien occupé pendant 12 ans quand même, hein, j'ai passé 12 ans là-dedans. Et puis, est arrivé ça avec l'usure, c'est toujours pareil, il y avait d'autres qui sont arrivés, et puis, nous, on nous faisait changer tous ensemble de temps en temps, hein. Donc j'ai dû, je pouvais pas refuser, dans mon statut, j'avais un statut de fonction publique, en fait, hein. Les ingénieurs militaires, ils avaient un statut de militaire, nous, on avait un statut de cadre de la fonction publique, et les gens qu'on commandait avaient un statut d'ouvrier d'État, hein. Et il y avait même des secrétaires administratifs qui avaient encore un statut différent, vous voyez. Et donc là, je n'ai pas eu la chance, comme certains de mes copains, d'aller à Dakar ou à Papeete ou à Diego Suarez, etc. Moi c'était Paris ou Grenoble, hein. J'avais pas le choix, c'était... Donc j'ai fait mes 4 ans de... C'est pas de purgatoire, mais vraiment, ça me changeait complètement, au service de surveillance des armements à Grenoble. Le CIAR, que ça s'appelle. Donc, il traite de tous les marchés. C'était un peu la conformité du travail fait par des usines sur des marchés passés avec l'État. Voilà. Et à toi de signer, de taper, de tamponner comme quoi c'est valable ou pas, selon... Ah, ça peut être très important, hein, comme dans le cas des hélices du porte-avions qui sont restés, enfin, il y a des morceaux qui sont restés en mer dans les Caraïbes là-bas, là, parce que il y avait une malfaçon, bon, qui n'a pas été vue ou pas signalée, enfin bon, ça s'est pas bien passé. Donc vous voyez, il y avait quand même un risque, enfin bon, mais difficile comme boulot, parce que on peut pas être spécialiste en tout, quoi. Bon, moi c'était l'énergie. L'électricité, mais aussi l'air comprimé, la vapeur, toute forme d'énergie, en fait. Moi, je n'avais pas que l'électricité, hein, tout ce qui était de l'énergie. Et surtout que nous, avec les principes anglo-saxons, États-Unis et puis Angleterre, on ne travaille pas à la même fréquence que l'EDF. Quoi. On travaille en 60 périodes. Et donc c'est compliqué, il faut transformer tout le courant qu'on prend à l'EDF, il faut le transformer en un autre courant. Et donc il faut des centrales de conversion de fréquence et à l'île Longue et partout, quoi, et à Brest. Et
qu'est-ce qui justifie, pourquoi est-ce que vous
dites... C'est comme ça, c'est comme ça depuis, parce qu'on est sous... La France a été sous la... Enfin, il n'était pas leader dans toute cette industrie navale, quoi. C'était les Anglo-Saxons qui avaient le monopole au départ. Et donc, eux, chez eux, dans leur pays, c'est du 60 périodes. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et puis, en rentrant de Grenoble, j'ai retrouvé mon atelier d'origine sous le carpon, là, sous les capucins. Il reste encore une grande cheminée. On la voit quand on passe là. Ouais. Et donc on a continué à s'occuper donc des ateliers. On a vu que ça commençait à décliner les activités. Ça sentait pas bon, hein, après dans les années en 1980, à partir de 92, 93, c'était en train de partir à volo. Hein, ça allait vers la privatisation, ça allait vers la fin de. Bon. Et heureusement pour moi, il y a eu le porte-avions, il y a eu le char de Gaulle, quoi. Le dernier gros boulot, donc celui-là, bon, ça a été vraiment pour moi, c'était le cadeau de départ en retraite, quoi. Hein, 3 mégawatts d'un coup, là, 3000 kilowatts, quoi, d'un coup, surtout quand il a fallu démarrer les réacteurs. Donc c'est nous du quai qui ont fourni l'énergie, parce qu'un réacteur, ça ne se démarre pas. Ça, on claque pas dans les doigts, hein, pour démarrer. Il y a deux réacteurs en plus sur le porte-avions. Sur le porte-avions, je dis bien. Et donc, il faut qu'il n'y ait pas un vol d'écart pendant tout le temps de chargement, enfin de la mise en route du réacteur. Donc, pour ça, on nous a même acheté une centrale électrique neuve, mise en œuvre, à côté de notre vieille centrale avec les cheminées, avec des turbos alternateurs qui dataient de 1926. Donc on avait entretenu, qui marchait avec des chaudières, vous voyez, avec de la vapeur, avec des turbines, enfin, les anciennes, ça a marché pendant... Même les Allemands les ont plastiqués quand ils sont partis, ces salopards, là, ils ont foutu de la dynamite dans les alternateurs, et il a fallu les démonter, les renvoyer à Maubeuge, enfin dans les usines où ça a été fabriqué dans le Nord, pour les remonter et les remettre en route. Et jusqu'à... Donc on a fait une adjonction à notre centrale, on la voit d'ailleurs des Capucins, là. Et là on a mis des diesels, quoi. Des diesels finlandais, des diesels de 3 MW chacun, 3 MW chacun, vous voyez, 10 MW, et vas-y sur le porte-avions, quoi, vraiment. Et là, régulé comme du papier à lettre, c'est vraiment au volt près, quoi. Avec des variations de puissance qui étaient importantes, hein, parce que... Pas droit à l'erreur pendant le temps de charge, c'était plusieurs jours. Hein. Ça, c'est le réacteur, ça, c'est pas. C'était des moteurs qui étaient utilisés par les super tankers, les super porte-avions. Vous savez, c'est les balaises qui transportent des conteneurs. Hein. C'est les mêmes faits par Wärtsilä en Finlande. Et sur le pont, ils chauffaient les goélands, parce qu'il fallait que cette énergie se dissipe. Et donc, il y avait des résistances sur le pont du porte-avions. Puis ça fait. Sachez, les goélands, ils ont eu chaud pendant ce temps-là. Et voilà, et tout ce qui était autour. Et donc ça, c'était mon dernier gros boulot, quoi. C'était vraiment le top. Maintenant, la centrale dont j'avais la charge, plus les réseaux, ça n'intéressait plus les gens. L'énergie s'est cassée la figure, et puis il n'y avait plus de fabrication, et puis plus de puissance. Ça ne les intéressait pas, évidemment, ces réseaux d'énergie, ces machines-là. Comme les bateaux étaient partis aussi sur Toulon, il restait quelques petits refuels, bon... Mais c'est pas ça qui pouvait justifier un grand service, quoi. C'est obligé, quand même. Bon.
Réaction suite au nouveau plan de restructuration des arsenaux de la marine annoncé la semaine dernière par le ministre de la Défense. Ce plan prévoit la suppression de 4500 postes dans les chantiers navals militaires et un changement de statut pour la direction des constructions navales. À nouveau, l'arsenal de Brest est touché. On parle de 1700 postes en moins. Ce matin, le personnel a manifesté avant de rencontrer la direction. Le point avec Bruno Gilbert et Christophe Molina.
Surprise au moment de dévoiler le nouvel organigramme des arsenaux. Brest ne figure pas clairement dans la branche construction neuve. Construire des navires de surface de gros tonnage, comme le Charles de Gaulle, est pourtant la spécialité reconnue du site brestois. Oui, mais voilà, le plan de charge est tellement mince pour les 2 ou 3 années à venir qu'on peut maintenant à peine parler de spécialité.
On reste dans la partie ingénierie et on continuera à avoir des activités certes limitées de coopération avec l'Orient et nous l'espérons également avec Cherbourg. Donc nous maintenons un noyau dur de compétences C'est évident qu'il ne faudrait pas que ça se prolonge trop longtemps, mais à l'échéance de 2002, normalement, cette compétence devrait permettre de réactiver cette activité.
2002 correspond à de nouvelles commandes espérées, mais avant, il y aura au moins 2 années difficiles. La direction brestoise se refuse à avancer le moindre chiffre de suppression d'emplois, tout en s'avouant préoccupé par la situation de la sous-traitance. Les syndicats, eux, avaient appelé à une nouvelle mobilisation.
On s'occupait aussi, moi aussi d'ailleurs, je m'occupais de stations radio. Les sémaphores, enfin tout ce qui était militaire en dehors de l'arsenal. Hein. Je n'avais pas que dans l'arsenal, j'avais aussi tous les membres, comme le Poulmic, même le cimetière des bateaux de Landévennec. Vous voyez, il fallait électrifier aussi, parce qu'il y avait des gens qui gardiennaient, enfin bref. Mais tous les, à l'époque, il n'y avait pas non plus les systèmes, les satellites. Et donc, la radionavigation se faisait avec des stations, avec des antennes de 200 mètres là, pour pouvoir correspondre avec la force de frappe, avec les CNLE, quoi. Enfin, il fallait bien. Et là, c'est pareil, il fallait qu'il y ait une sécurité électrique aussi d'alimentation. Vous voyez, ça ne couvrait pas que... Moi, mon travail ne couvrait pas que Brest, hein. J'avais tout ce qui était sémaphore, etc., de Granville jusqu'à Biscarrosse.
Vous envoyiez des gens...
Oui, j'avais des équipes qui étaient aux extérieurs, on appelait ça. J'avais des équipes aux extérieurs, et j'avais des équipes réparties dans l'arsenal aussi, avec des limites géographiques bien précises. C'était pareil pour la vapeur, c'était pareil pour l'air comprimé, l'eau déminéralisée, on fabriquait de l'eau... On était fabricant d'eau déminéralisée pour les sous-marins nucléaires. C'est ce qu'il faut pour l'électrolyse et pour les batteries. Quoi.
Et donc, vous aviez votre propre production d'électricité,
oui.
Et votre ben, propre...
Non. On a la production d'électricité. Économiquement, ce serait revenu trop cher. On avait une production d'électricité qui nous rendrait autonomes. Et on pouvait fonctionner en parallèle avec l'EDF. Et l'EDF, ce n'est pas l'EDF de Brest, hein, c'est l'EDF très haute tension, Nantes, Landerneau et nous. Quoi, hein, vous voyez, deux arrivées 63 000 volts à plusieurs mégawatts. Hein, bon. Et on a eu des contrats selon les années, parce que l'EDF, c'était variable aussi, hein, où quand ils étaient surchargés sur le réseau national, ils nous téléphonaient ou ils envoyaient un message, vous pouvez prendre votre autonomie tel jour, de telle heure à telle heure, parce qu'on ne va pas pouvoir tenir sur la Bretagne, on risque de foutre tout en l'air, là, sur, c'est Nantes qui commande, hein, et c'est Nantes qui commande hein, ici, toute la région. Donc, vous prenez votre autonomie de telle heure à telle heure, tel jour. Et puis, il y a eu des années aussi, des dizaines d'années, enfin oui, presque des dizaines, où il y avait l'effacement des jours de pointe aussi, c'est le JP, ils appelaient ça, c'est, bon, les gens ne se rappellent plus de ça, peut-être maintenant. Effacement des jours de pointe, donc il y avait 18 ou 20 jours dans l'année qui étaient sélectionnés à l'avance. Ils savaient que ces jours-là, avec les météos, ils travaillaient beaucoup avec la météo, ils savaient que ça allait être difficile. Et donc, systématiquement, de 6 heures du matin jusqu'à 23 heures, par exemple, tu te déconnectais de l'EDF, tu prenais ton autonomie, tout ça sans coupure, hein, tout ça en couplage. Hein. Parce qu'on savait faire ça aussi, les couplages, on ne coupe pas un côté pour remettre l'autre, là, c'est tout se fait en douceur, hein, c'est vaut mieux. Et puis, on prenait notre autonomie pendant le temps des 18 heures de JP. Alors, on alimentait par exemple l'hôpital des armées, vous voyez, c'était faisait partie de notre lot. Et là, il fallait faire gaffe aussi, parce qu'il y a des gens, les opérations, les trucs comme ça. Et un groupe de secours aussi, un démarrage automatique, dont je m'occupais aussi, entre parenthèses. Ça, c'est des petits détails, mais bon, c'est quand même pas des gros... C'est quand même des gros machins. Et bien, depuis que c'est maintenant une boîte privée, que c'est fini, qu'il n'y a plus, hein, et bien, j'ai appris récemment que l'hôpital des armées s'était déconnecté de l'arsenal, enfin, il y a eu des arrangements, et s'est branché sur les DF de la ville directement, vous voyez. C'est récent, ça.
Et est-ce que vous gériez également... les électriciens qui intervenaient à bord, ou c'était
non,
séparé
non, non, c'est complètement séparé. C'est un autre métier. Ah non, c'était complètement séparé. On était les DF de la marine, en fait. J'avais le droit à un gyrophare, mais je n'avais pas le temps de mettre le gyrophare à l'évac. Si, j'avais un gyrophare, hein, un peu. Donc, ça voulait dire, tu sais, un truc bleu qui tourne. Hein. Et bien non, je me... Pff, bon, bref. C'était un truc bricolé, en plus, qu'il fallait mettre sur le tour. Bon, voilà. Et donc, mais à l'arsenal, j'ai passé beaucoup plus de temps à l'arsenal principal. Je crois que j'ai dû avoir une douzaine de contraventions, donc des fois trois d'un coup, même. Des fois, avec mon voisin de Carvernier. Enfin, c'est les gendarmes maritimes qui étaient logés. À l'époque, j'étais jeune marié, on n'avait pas encore acheté quelque chose. Et de m'arrêter, c'était une panne haute tension. En fait, c'était un fédère. Les fédères, c'est des câbles haute tension qui étaient claqués derrière le poste de transformation. Mais personne ne savait, ça avait déclenché. On n'avait pas beaucoup d'équipement à l'époque, des vieux vélomoteurs trafiqués du temps des Allemands presque, tu vois, des trucs minables, quoi. J'avais pris ma bagnole perso, rangé la bagnole devant la porte du poste de transformation, et puis je vais, et j'essaye de refermer le disjoncteur, des vieux disjoncteurs à volume d'huile, et poum, le truc il me pète dans la gueule, ça puait l'ail, ça sentait l'ozone, vous savez, le court-circuit haute tension, ça décompose l'air autour. Ça sent l'ail, ça sent l'ozone, quoi. Ah ouais, tu fabriques de l'ozone en faisant le conjus. Et boum. Ah ouais, bah ça, il faut le savoir aussi, c'est l'ozone. Des fois, j'en ai fabriqué sans le vouloir. Je sors de là, j'avais un papillon sur mon truc. Prière de vous présenter à la porte, machin. Putain, c'était mon voisin de palier qui m'avait coltaré, qui était gendarme maritime, quoi. Il était embêté. Une autre fois, le pont de Couvrance ne voulait plus descendre. C'est l'heure de midi, on était chargé de ce sens. Et là, j'avais un scooter à l'époque. Et je taillais mon scooter. Et il était midi moins 5, un truc comme ça. Ça tombait mal, c'est l'heure où tout le monde va bouffer. Le pont était en l'air à 30 mètres. Il ne voulait plus descendre. Donc, je range mon scooter. Bien sûr, je laisse la clé. Enfin, je n'ai même pas fait attention. J'ai rangé en pied de la pile à côté de la porte Tourville, quoi. Pas loin de chez les flics, justement. Enfin, les flics morts. Et je monte, et puis je vais voir avec le gars qui était là, l'électricien qui était là, on regarde ça, on finit par réussir, en trichant un peu, à le faire redescendre. Je redescends, plus de scooter, parce que moi j'étais à la bourre pour manger aussi, du coup il était peut-être 1h15, enfin vous voyez, Et puis je taille à pied, en maugréant, et en passant devant chez les gendarmes maritimes, je vois mon scooter. Je taille en vitesse. Ah, c'est à vous, l'heureux propriétaire des machins. Les trois contraventions. Une pour stationnement interdit. Une parce que j'avais pas rempli le carnet de bord. Parce que c'est un carnet de bord, tu en connais, un carnet de bord, c'est vraiment con. Hein. Et une parce que j'avais laissé la clé sur le machin. Trois. Alors je dis bravo, trois d'un coup. Trois. Je dis, vous savez où elle va aller, votre contravention? Elle va aller à la poubelle, je lui dis. Oh la vache, c'est pas content.
Ah, parce qu'à chaque fois, c'est des amendes ?
Non. Ils peuvent te supprimer, ils pouvaient me supprimer mon accès dans ma voiture personnelle à l'arsenal, que j'étais obligé de la laisser dehors pour faire chier le monde, quoi. Et donc, t'es obligé d'aller à pied. Si tu bosses à 2 km, eh ben, tu vas à Pince, quoi. Alors que t'es responsable d'un truc, tout ça. Mais c'est des gendarmes maritimes. Ceux-là, c'est des... Ils passaient leur temps, à l'époque, ça buvait aussi. Il faut reconnaître qu'il y avait aussi le côté, pas tout le monde, bien sûr, mais un pourcentage, comme partout à l'époque, le bâtiment aussi, vraiment. Eh bien, ils fouillaient quand les gens passaient avec des sacs à dos, comme les sacs de sport, un peu, là. Et ils rataient pas, hein. Ils disaient, hop, fais voir, qu'est-ce qu'il y a. Ils fouillaient les gens à l'entrée. Normalement, c'est à la sortie, si tu partais avec du matériel ou quelque chose, si tu truandais quelque chose. Et non, c'était à l'entrée. Et si c'était une bouteille de vin ou d'apéro, ou le prophète, le mec, il confisquait. Il confisquait. Alors, ça râlait, parce que tu disais, comment... c'est vous qui le buvez en douce, ou bien, etc. Ou bien, ah non, le donne aux bonnes œuvres, tu parles... Alors, non, c'est pour dire qu'ils n'étaient pas bien vus, quoi. La gendarmerie maritime, c'était son côté... ils avaient des ordres, bien sûr, c'est des militaires, hein, on ne peut pas prêter non plus, mais bon. Mais globalement, l'ouvrier de l'arsenal n'aimait pas, comme on dit, les flics morts, parce que c'était les flics morts.
La Grande Maison, une émission de Martin, Cause et Léouette, à retrouver chaque semaine sur Radio U.
On les retrouve en raccourci dans nos petites amours d'un jour. Toutes les joies, tous les soucis, des amours qui durent toujours. C'est là le sort de la marine et de toutes nos petites chéries. On accoste vite un bec pour nos baisers le corps avec. et les joies et les bouderies, les fâcheries, les bons retours, il y a tout ça en raccourci.